Nos existences sont parfois compliquées et souvent nous aspirons à vivre avec plus de sérénité. Est-ce que c'est possible? Et si oui, comment cela peut-il se faire? Eh bien, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions à partir de l'histoire de Naaman pour répondre à cette question. Comment passer d'une vie déchirée à une existence sereine? L'histoire de Naaman que nous venons d'entendre est une vieille histoire, elle est dans l'Ancien Testament et elle se situe environ il y a 3000 ans, au 9e siècle avant notre ère, dans un monde très différent du nôtre, au niveau des représentations, des repères, du savoir, etc. Et je vous proposerai dimanche prochain, si vous revenez, de relire ce texte en le situant historiquement pour voir ensemble les défis qu'il pose et qui peuvent résonner aujourd'hui, même 3000 ans après, de manière extrêmement actuelle. Mais ça sera dimanche prochain, donc vous avez le temps d'ici là de le lire et de le relire. Et aujourd'hui, je voudrais que ce texte, nous le partagions sous un angle existentiel, c'est-à-dire suivre l'histoire de Naaman, telle que le texte nous la raconte, et en faire écho avec nos vies, qui peut-être peuvent suivre le même cheminement. Ce cheminement qui est extraordinaire, puisque Naaman, au début du récit, est un homme déchiré, et à la fin du récit, il est un homme apaisé. Au début donc, il est déchiré, alors c'est quelqu'un de brillant, Naaman, vous l'avez entendu au début de l'histoire, c'est un grand général du roi syrien, du roi d'Aram, c'est non seulement un grand général, mais c'est en plus le général en chef de l'armée du roi de Syrie, qui en plus est une armée qui vient de gagner sur ses ennemis, et en particulier sur le royaume d'Israël, dont la capitale est Samarie. Il est donc le général en chef d'une armée victorieuse. C'est un homme, on pourrait dire, extrêmement important par ses fonctions, par son succès personnel, par les honneurs dont il bénéficie dans son pays et auprès de son monarque. Son nom même, d'ailleurs, Naaman, en hébreu, ça veut dire gracieux, plaisant. Dans son nom même, il porte cette place extrêmement belle, honorifique et centrale. C'est quelqu'un de très très important, mais voilà, il a une grande souffrance, un grand déchirement, c'est que toute cette célébrité, cette compétence et ce statut social ne l'empêchent pas de souffrir d'une maladie de peau. Alors, de peau, pardon, ça pépé dans le micro en même temps, maladie de peau. C'était écrit la lèpre dans ce récit et souvent il est connu comme Naaman le lépreux. Alors il y a un peu d'anachronisme à ça parce qu'au 9e siècle avant notre ère, la lèpre telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existait pas au Proche-Orient. Elle n'y est arrivée qu'au 4e siècle quand les armées d'Alexandre le Grand sont rentrées d'Inde et ont ramené cette maladie. Donc ce n'est pas vraiment la lèpre telle que nous pouvons nous la représenter aujourd'hui, mais c'est une maladie de peau dont nous ne savons pas exactement ce qu'elle est, mais qui le fait souffrir, comme on sait que peut faire souffrir très fortement une maladie de peau. Et à cette souffrance physique, Naaman associe forcément une souffrance morale, intérieure, psychologique, et on sait combien quand nous souffrons d'une maladie, nous souffrons aussi intérieurement, dans notre morale. On pourrait dire, pour faire un jeu de mots, que Naaman, qui a une maladie de peau, est aussi quelqu'un qui est mal dans sa peau. Il ne se sent pas à son aise dans sa vie. Et même, on pourrait dire qu'il souffre socialement, parce qu'il est dans un temps où on pense que quelqu'un qui a une maladie, c'est quelqu'un qui, quelque part, a fait le mal, quelqu'un qui mérite une punition, quelqu'un qui est impur. Et donc, Naaman porte aussi ce poids. Voilà, quelqu'un de célèbre, de grand, de honoré, de victorieux, de compétent, de riche, et en même temps, au fond de lui-même, souffrant sur tous les plans sur lesquels on peut souffrir. Et à la fin du récit, il est un homme qui a une peau nouvelle, qui est apaisé, qui est dans une nouvelle phase de vie, qui a découvert la foi et qui rentre chez lui avec cette phrase que le prophète Élisée lui dit, « Va en paix ». Il termine l'histoire comme un homme apaisé. Un homme déchiré au début, un homme apaisé à la fin, ben qu'est-ce qui s'est passé entre ? C'est ça qui est important pour nous, de se dire, voilà, qu'est-ce qui dans ce cheminement peut nous aider à passer du déchirement à l'apaisement ? Et il m'a semblé qu'il y avait trois dimensions importantes dans ce qui arrive à Naaman. La première dimension dans ce parcours, c'est que Naaman va être obligé de passer par un chemin d'humilité. Un chemin qu'il n'a pas choisi, qu'il n'a même pas imaginé, un chemin même par rapport auquel il va se rebiffer, qu'il va même parfois comprendre comme un chemin d'humiliation, mais un chemin de dénuement, on pourrait dire. Un chemin de vérité pour se retrouver tel qu'il est, lui-même, non pas dans les apparats de sa fonction ou de son statut, mais lui, en tant qu'être humain. Vous l'avez vu, quand il se met en chemin pour aller en Israël, il le fait à sa manière, c'est-à-dire comme un puissant parmi les puissants. Alors il va aller voir directement le roi d'Israël. Et il y va porteur d'un courrier diplomatique que le roi de Syrie lui a donné directement pour le roi d'Israël. Ça se passe de puissant à puissant, de pouvoir à pouvoir, avec cette lettre qui demande au roi d'Israël de guérir Naaman de sa lettre. C'est même un rapport, on pourrait dire, de force entre deux monarques. Et comme c'est une caravane diplomatique, et qu'il y a donc un enjeu dans cette rencontre, eh bien Naaman voyage avec tout ce qui est là pour impressionner le roi d'Israël, avec notamment toute sa richesse. Vous l'avez entendu, c'est spectaculaire. Il emporte précisément 342 kilos d'argent, 6000 pièces d'or, ce qui fait 68 kilos d'or. Donc 342 kilos d'argent, 68 kilos d'or, je laisse ceux d'entre vous qui ont ça dans leur coffre nous dire tout à l'heure combien ça représente, ou ceux qui suivent les cours au jour d'aujourd'hui, c'est une somme colossale qu'il emmène en voyage avec lui. Et puis il emmène aussi 10 tenues de fête, c'est-à-dire des vêtements royaux, pour montrer qu'il est quelqu'un de puissant, et puis il se déplace avec ses chevaux, son char, ses serviteurs, sa suite, enfin voilà, c'est un puissant qui se met en route pour aller rencontrer un autre puissant et entre eux faire affaire et essayer de guérir. Il va donc voir directement le roi d'Israël. C'est assez amusant quand on le lit d'ailleurs, parce que le roi d'Israël ne se réjouit pas du tout de voir arriver le général syrien. Au contraire, il prend peur et se dit « voilà, c'est l'armée qui vient de nous vaincre et on l'envoie pour que je le guérisse, mais je ne vais pas y arriver. » Donc ça va être un prétexte en fait pour redéclencher une guerre et pour qu'il y ait des représailles. C'est un piège. Et le roi d'Israël a peur. Voilà, ça commence dans la sphère de la puissance, mais c'est un échec dans cette sphère-là. Ça ne marche pas. Et c'est à partir de là que le chemin de Naaman va devoir traverser du dépouillement, de l'humilité, du dénuement, puisque Élisée, le prophète, qui se trouve dans ce royaume d'Israël, Élisée va dire, mais c'est moi qu'il doit venir voir. Non pas le roi, mais moi, simple prophète. Encore, il ne dit pas vraiment qu'on doit venir le voir, puisque quand Naaman s'approche, Élisée ne daigne même pas sortir de sa maison. Il envoie simplement son serviteur pour lui dire, le prophète te dit d'aller te baigner dans le Jourdain. Cette petite rivière, enfin c'est un fleuve, mais qui pour le général syrien est un petit cours d'eau de rien du tout. Et le texte nous dit bien que Naaman est vexé par cette humiliation qu'on lui fait. Devant toute sa suite, on ne daigne pas sortir à sa rencontre et on lui dit « tu n'as qu'à simplement aller te tremper dans le Jourdain ». Il est tellement furieux qu'il n'a même pas envie d'y aller. Il dit « non, je rentre chez moi, ce n'est pas la peine de continuer ». Heureusement, il finit par être convaincu par ses serviteurs et il va au Jourdain, il se déshabille, il se met nu. C'est-à-dire il enlève les vêtements de puissant qu'il a sur lui. Il se retrouve dans le plus simple appareil, c'est-à-dire comme tout être humain, en nudité, c'est-à-dire sans artifice, pour se plonger plusieurs fois dans l'eau du Jourdain, en plein dénuement, en plein dépouillement, on pourrait dire, en pleine humiliation peut-être pour lui. un dépouillement qui va même jusqu'à devoir être dépouillé de ses conceptions par rapport à ce qu'il attendait. Le texte nous dit en hébreu que Naaman va voir le roi d'Israël pour être guéri. Et le terme qui est employé là en hébreu, c'est le verbe azaf, qui est un verbe qui dit la guérison spectaculaire, les rites d'exorcisme, enfin un geste qui puisse de manière évidente tout d'un coup le guérir. Mais ce n'est pas ça que fait Élisée. Élisée l'envoie donc simplement se baigner dans le Jourdain. Et puis Élisée emploie un autre terme, qui est le verbe yada, qui veut dire la connaissance. Élisée ne va pas lui parler du spectaculaire, mais du savoir, connaître Dieu. Ouais, c'est un chemin difficile. Je m'arrête là dans les détails, mais on pourrait reprendre encore plein d'éléments dans ce texte qui nous disent que Naaman, malgré toute sa puissance, sa fierté, son autorité, sa richesse, est quelqu'un qui doit faire ce chemin difficile, où tout cela ne sert à rien, où il doit s'en dépouiller, où il doit se dénuder, où il doit être tout simplement et tout humblement à disposition de la rencontre qui va être pour lui un enclencheur pour une vie nouvelle. C'est un chemin difficile que Naaman emprunte. Alors heureusement, il y a une deuxième dimension dans ce texte qui est très importante. Parce que sur ce chemin difficile, plusieurs fois, Naaman a envie de revenir en arrière, n'a pas envie de continuer jusqu'au bout. Alors heureusement, sur ce chemin où il frôle l'abandon, il va rencontrer des personnes qui, à plusieurs reprises, vont l'aider à continuer ce chemin et à aller plus loin. Des témoins. C'est la deuxième dimension qui me touche dans ce texte. Naaman n'est pas seul sur ce chemin de souffrance, de déchirement, de route à prendre vers le dépouillement. Il y a des personnes. Et la première de ces personnes, c'est la personne exactement la plus inverse qui soit par rapport à Naaman. C'est une jeune fille esclave. Lui qui est un grand général syrien victorieux, il a dans ses campagnes militaires ramené des prisonniers, comme ça se faisait à l'époque, pour qu'ils deviennent des esclaves. Et l'une d'entre elles, une jeune fille, a été donnée par le roi, lui a été donnée, à lui Naaman, pour qu'elle soit au service de sa maison, au service de sa femme. C'est une jeune femme, objet on pourrait dire, puis c'est une esclave. Elle n'a aucune liberté, aucune personnalité, on ne sait même pas son nom d'ailleurs. Et pourtant c'est elle qui va dire, mais moi je connais, pour toi qui souffres, quelqu'un dans mon pays qui peut te guérir. C'est elle qui va le mettre en route. Souvent, ce sont des témoins humbles, modestes et anonymes qui sont au départ d'un cheminement de vie. Et alors, Naaman va prendre la route. Et deuxième témoin important, c'est Élisée. Quand Élisée va apprendre que la rencontre avec le roi d'Israël est un échec diplomatique, c'est lui qui va dire, mais c'est moi, c'est vers moi que Naaman doit venir. La route ne s'arrête pas dans le palais du roi d'Israël. Il faut qu'il vienne jusque vers moi. Et puis quand il y a cette fameuse vexation qui consiste à devoir simplement aller se tremper dans le Jourdain et que Naaman, furieux, veut rentrer chez lui, là ce sont ses serviteurs, à lui Naaman, qui vont venir le trouver en disant « Non mais écoute, c'est pas bien compliqué quand même ce qu'il te demande de faire. Essaye au moins de le faire avant de repartir. » Ils vont le raisonner et le convaincre. Et Naaman va aller effectivement se tremper dans le Jourdain. Et puis Élisée va à nouveau intervenir pour, au moment où Naaman veut le récompenser, le remercier, lui donner quelque chose, refuser le cadeau et lui donner quelque chose, la bénédiction de la part de Dieu, cette parole formidable, va en paix. Voilà, c'est le deuxième point que je trouve très important dans ce texte. Ces personnes qui ne sont pas des grandes personnes puissantes, ça peut être les serviteurs, la servante, ce ne sont pas forcément des grands croyants, les serviteurs de Naaman sont des païens comme lui, mais ce sont des personnes essentielles sur sa route. Sur cette route de dépouillement, qui croise des témoins, et qui, troisième dimension, n'est pas qu'une route de guérison. Parce que cette question de la guérison, elle s'effiloche au fil du texte, pour être remplacé par une question beaucoup plus importante, qui est celle de la foi, celle de la relation à Dieu. C'est un chemin de foi que Naaman va prendre et sur lequel il va aller jusqu'au bout. C'est un chemin de foi parce que je vous rappelle que Naaman n'est pas un homme d'Israël, c'est un Syrien. Donc il n'adore pas le Seigneur, il adore le Dieu de son peuple, l'idole, Rimmon. Il ne connaît pas le Dieu d'Israël. Mais en chemin, il va le découvrir. Et il va voir cette confession de foi très belle. Je sais que sur la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël. Alors bien sûr, ce n'est pas une conversion d'un instant. C'est tout ce long chemin qui l'amène à ça. C'est tous ces témoins le long de la route qui, peu à peu, l'amènent à rencontrer le Seigneur. C'est cet abandon, ce dépouillement qui lui permet d'être disponible aux autres qu'il rencontre et à l'autre, le Seigneur Dieu. Et ce dénuement absolu d'être nu pour se plonger dans le Jourdain, 7 fois, nous dit le texte, il se plonge dans le Jourdain. Le verbe plonger, dans la Septante, qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament, c'est le verbe baptizo, qui a été transcrit en français par baptiser. Ce n'est pas un baptême que reçoit Naaman, mais il y a un écho avec une démarche de foi, de passer par l'eau pour ressortir comme un être nouveau. Et puis il va tellement croire dans ce Dieu d'Israël, Naaman, qu'il va dire, mais voilà, pour retourner chez moi, puisque je ne peux pas rester dans ce pays d'Israël, eh bien je vais prendre de la terre. Vous l'avez entendu, il charge 2 mulets avec de la terre d'Israël pour la ramener chez lui pour qu'il puisse, symboliquement, sur la terre d'Israël, adorer celui qui est devenu son Dieu. Alors ça ne va pas être facile pour lui, parce qu'il va se retrouver dans une nouvelle problématique qu'il n'avait pas au départ. C'est qu'il n'est plus croyant dans le Dieu Rimmon. Il est devenu croyant dans le Dieu d'Israël. Et vous savez que dans la foi d'Israël, on ne peut pas être... On ne peut pas servir plusieurs dieux à la fois. Mais par ses fonctions de général, il va devoir accompagner son roi régulièrement pour adorer dans le temple de Rimmon. Alors que faire? Eh bien, Naaman a vraiment rencontré le Seigneur. Donc il a vraiment rencontré quelqu'un dont il comprend que c'est une relation de confiance qu'il y a avec ce Dieu. Alors il dit, voilà, tout simplement, je vais être mis dans un dilemme compliqué. Au fond de moi, je n'adore pas Rimmon. Mais extérieurement, je ferai comme si. Pardonne-moi d'avance, dit-il à Dieu. C'est très beau cette phrase. Hein, ce n'est pas une phrase pour se débiner. Ce n'est pas pour, comme on pourrait nous dire, je sais que je vais faire des trucs, mais pardonne-moi d'avance. Non, non, c'est plutôt, je vais être obligé dans une situation inconfortable, où il y a une part de compromis, où il y a une part d'ajustement. Ce n'est pas satisfaisant, mais je sais que tu me pardonnes. Et d'ailleurs, Élisée va le lui confirmer, puisqu'en apprenant cela, c'est alors qu'Élisée lui dit « Va en paix. Tu peux rentrer paisible, même avec cette question. Tu n'es plus prisonnier de ta prestance, de ta puissance, de ta souffrance. Tu es dans la relation de confiance au Seigneur. Va en paix. » Voilà, c'est une histoire superbe, je trouve, cette histoire de Naaman. Moi, j'aime beaucoup cette histoire de cet homme déchiré qui devient un homme apaisé. Je trouve cette histoire extraordinaire. Enfin, extraordinaire. Est-ce qu'elle est vraiment extraordinaire? Est-ce qu'elle n'est pas tout simplement ordinaire, en fait, cette histoire? Parce que si on dit trop qu'elle est extraordinaire, on dit, voilà, c'était l'histoire de quelqu'un, mais c'est bien loin de nous. Et je crois profondément que c'est une histoire très ordinaire, parce que c'est notre histoire, à chacun de nous. Nous qui sommes dans cette aspiration à être moins déchirés et plus apaisés. Et je trouve écho de tout cela dans ce récit. Je trouve écho à ce déchirement qui est le nôtre, à cette aspiration qui est la nôtre, à cette difficulté parfois d'ajuster nos vies dans ce monde complexe. Je trouve cet appel pour nos vies à un chemin de dépouillement, c'est-à-dire à arriver dans la confiance qui permet de se dire, c'est pas notre statut social, c'est pas nos richesses, c'est pas notre savoir, c'est pas notre orgueil, c'est pas tout ce que la société nous donne comme injonction, débrouille-toi tout seul, guéris-toi toi-même, c'est pas ça qui fait que je suis un être humain. C'est mon dénuement. C'est mon humilité. C'est la place pour d'autres que moi-même. Comme un appel à suivre ce cheminement qui va vers l'authenticité et la vérité. Ce cheminement sur lequel nous ne sommes pas seuls, puisqu'il y a autour de nous des frères et des sœurs qui nous croisent, que nous croisons, et qui parfois le plus humble va dire la phrase qui va nous aider à aller plus loin. C'est ça l'Église, c'est être entouré de frères et de sœurs qui, à un moment donné, nous aident à aller plus loin sur ce chemin de confiance et d'apaisement. Ce chemin qui est un chemin de foi, parce que fondamentalement, c'est savoir que le Seigneur nous aide à nous accepter nous-mêmes, tels que nous sommes, en vérité, en nudité, en humilité, tout simplement, à mieux être dans notre peau, parce que nous savons que Dieu nous aime. Et nous ne sommes tellement pas seuls sur ce chemin, qu'il y en a un qui nous précède, il y en a un qui nous accompagne, c'est le Seigneur lui-même. Dans la foi chrétienne, Jésus-Christ, c'est bien celui qui lui-même, avant nous et avec nous, et derrière nous, est là pour nous aider à prendre ce chemin parce qu'il a lui-même suivi. Vous l'avez entendu dans l'évangile de Luc, sa première prédication à Nazareth, il cite le prophète Ésaïe, les aveugles voient, les malades sont guéris, les prisonniers sont libérés, ceux qui sont esclaves ont une vie de liberté, parce que je viens proclamer la présence du Seigneur. Et dit-il, vous qui m'écoutez, pour vous, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Pour nous qui l'écoutons, ça veut dire que cette parole s'accomplit pour nous aujourd'hui. Ce Jésus-Christ qui lui-même a vécu ce chemin, ce dépouillement, jusqu'à la croix, qui connaît nos souffrances et nos poids, qui est ressuscité pour nous ouvrir dès lendemain l'espérance, la foi, l'amour, la vie nouvelle, cette vie de foi que nous pouvons partager les uns avec les autres. Alors voilà, dans cette belle histoire de Naaman, j'entends résonner notre belle histoire à chacun. Et que nous puissions, chacun de nous, maintenant, aujourd'hui, ici, chacun de nous, dans le Naaman que nous sommes, recevoir la même parole que lui sur ce chemin de nos vies. Cette parole qui contient tout l'Évangile, qui contient toute la présence du Christ, qui contient toute la force de notre vie, deux mots qu'Élisée va dire à Naaman et que l'Évangile nous dit ce soir à chacun. Va en paix. Amen.